Le podcast Afrique Chine vous est offert en partenariat avec le Africa China Reporting Project de l'Université de Wits à Johannesburg. Le China Africa Reporting encourage des reportages équilibrés et réfléchis sur les relations Chine-Afrique grâce à des programmes de formation innovants organisés tout au long de l'année. Pour plus d'informations, allez sur le site www.africachinareporting.com.
Bonjour et bienvenue à ce nouveau numéro d'Afrique Chine, votre podcast dédié à l'actualité de la présence chinoise en Afrique. Et comme toujours, c'est Christian Géraud au micro pour vous entretenir dans cette nouvelle conversation de la Chine en Afrique.
Le monde change, le monde il évolue, le monde est en pleine transformation. Et au milieu de cette transformation, de ce changement, nous y trouvons la Chine. Une Chine aujourd'hui qui, par la domination qu'elle exerce sur la chaîne d'approvisionnement des minerais critiques, est aujourd'hui perçue comme une menace pour les puissances traditionnelles que l'on connaissait, les puissances occidentales, les États-Unis, la France, la Belgique, l'Angleterre, l'Australie, ces puissances qui pendant longtemps ont dominé le système international. Aujourd'hui, l'émergence de la Chine comme un acteur majeur économique, mais aussi militaire et politique en Afrique, en Asie, en Amérique latine, est perçue comme une menace. Une menace aussi au rule-based ordre qui est mise en place. La Chine, de son côté, elle parle plutôt d'un système international qui est basé et fondé sur les intérêts du monde occidental et non des valeurs humaines et d'équité, de justice qui auraient dû constituer le monde international. Aujourd'hui, l'émergence de la Chine et sa présence au niveau international pose aussi des questions pour plusieurs acteurs, notamment sur le continent africain en Amérique latine. Qu'est-ce que veut la Chine? Qu'est-ce qu'elle propose? En quoi est-elle différente de ce que nous connaissons déjà de la part des autres puissances? Est-ce que c'est un nouvel hégémon qui sera bienveillant ou il sera comme les autres dominateurs cherchant à imposer sa volonté sur le continent africain ou même en Amérique latine? C'est pourquoi aujourd'hui, pour en parler, je reçois Antoine Roth, qui est professeur assistant en relations internationales à l'université de Tohoku à Sendai au Japon. Il travaille sur les relations sino-japonaises et les relations étrangères et internationales de la Chine en Asie du Sud-Est. Il est titulaire et doctorant en politique internationale de l'Université de Tokyo et d'un master en études asiatiques de l'Université de George Washington et d'une licence en relations internationales de l'Université de Genève. Il a précédemment travaillé à l'ambassade de Suisse à Tokyo et a été étudiant invité à l'Université de Fudan à Shanghai. Antoine, bonjour.
Bonjour.
C'est un réel plaisir pour moi de vous recevoir aujourd'hui. Vous avez récemment publié un livre qui parle de la relation de la Chine en Asie du Sud-Est de façon générale. Le titre, il est ici en anglais. Je vais le lire en anglais, mais je ne sais pas s'il y a une traduction en français. Vous allez me corriger. Le titre en anglais est « A Hierarchical Vision of Order, Understanding Chinese Foreign Policy in Asia ». Une traduction française dira « Une vision hiérarchique de l'ordre, comprendre la politique étrangère chinoise en Asie ». C'est vrai que le livre parle d'Asie, mais il fait aussi écho de ce que de la politique étrangère chinoise en Asie, de comment on peut la comprendre en dehors de l'Asie, qui fait notamment écho sur le monde africain avec tout son engagement sur le continent africain. Antoine Roth, qu'est-ce qui vous a motivé d'abord à écrire ce livre ?
Eh bien, mon intérêt premier était pour les relations internationales en Asie, et je suis vite arrivé à la conclusion que la première étape pour comprendre ces relations internationales était de s'intéresser à la Chine, la puissance montante de la région bien sûr, le cœur de la région d'un point de vue géographique également, et que donc comprendre la vision internationale de la Chine, qu'a la Chine de l'ordre international en Asie et bien sûr plus largement, est à mon avis le fondement de toute étude des relations dans la région. C'est pour ça que je me suis intéressé à la Chine.
Vous parlez d'une vision hiérarchique de l'ordre quand on parle de la Chine en Asie. Avant même d'arriver sur la perception de la hiérarchie que la Chine a en Asie, est-ce que la Chine comme puissance montante et comme économie émergente dans l'Asie, est-elle perçue comme un pays amical ou plutôt un pays, je dirais, belliqueux par rapport à ses voisins?
Eh bien, ses voisins, alors si on regarde les sondages d'opinion publique, ils sont de manière générale très négatifs. Donc la perception de la Chine parmi ses voisins n'est pas très bonne. Bien sûr, il y a beaucoup de raisons derrière ces perceptions négatives. La plupart sont d'ailleurs liées à l'expérience très personnelle qu'ont les populations autour de la Chine du pays, qui vient par la diaspora chinoise dans la région, qui est de manière générale souvent plus riche et mieux connectée que les locaux, surtout en Asie du Sud-Est par exemple, et aussi en Asie centrale, et aussi la façon dont se comportent les compagnies privées chinoises, ou les compagnies d'ailleurs étatiques également, dans ces pays. Donc ça, c'est, je pense, la chose qui contribue le plus aux perceptions négatives. Cependant, l'attitude chinoise envers ces pays au niveau gouvernemental aussi peut créer des heurts également, puisque bien sûr la Chine est perçue comme être très consciente de sa propre supériorité, de sa longue civilisation dont les leaders chinois comptent merveille de façon très fréquente, de sa taille tout simplement, parce que la Chine est encore pour quelques mois, je pense, le plus grand pays du monde en termes de population. L'Inde va bientôt la dépasser, mais ce sentiment de centralité en Asie est réel. Et je pense que tous les pays autour sont très conscients, à travers les relations diplomatiques avec la Chine, ces pays se sont rendus très conscients de ce fait. Et les diplomates chinois sont parfois accusés d'être arrogants ou hautains et de considérer les autres comme des petits pays et donc inférieurs d'une certaine façon.
Parlons de la diplomatie entre guillemets hautaine et plus de ces diplomates hautains chinois. Nous sommes depuis quelques années, nous entendons cette expression « wolf warriors », où nous voyons une diplomatie chinoise de plus en plus assertive, comme on dirait en anglais, beaucoup plus en plus affirmante et beaucoup plus présente. Ça dénote un peu de l'époque où on connaissait une Chine qui était timide, qui, dans les relations internationales, n'ayant pas encore atteint cette stature de puissance et d'influence économique et politique, on constatait que la Chine avait plutôt une approche assez différente, un peu timide des relations internationales. Aujourd'hui, qu'on voit comment, une dizaine d'années aujourd'hui déjà, que la Chine est devenue une véritable puissance économique, on voit une nouvelle diplomatie chinoise qui se met en place, une nouvelle diplomatie chinoise qui s'affirme, qui n'a pas peur de clairement d'affirmer sa puissance, d'affirmer ses intérêts. Et je crois que c'est même cette affirmation-là qui fait un peu peur à plusieurs, non seulement au niveau mondial, mais aussi à ses voisins directs en Asie. Quand on parle aux acteurs chinois, lorsqu'on parle à différentes personnes, professeurs d'université, chercheurs, on se rend compte que il y a une sorte d'écho et de résonance à l'époque où, à ce qu'on appelle au siècle d'humiliation, lorsque la Chine avait été dominée par les autres pays, lorsqu'elle était contrôlée, etc. Est-ce que dans votre recherche, vous avez pu trouver l'écho entre ce passé qui est un peu traumatique au sein de la politique, dans l'histoire politique chinoise, et aujourd'hui sa volonté de s'affirmer comme véritable puissance au niveau régional et mondial?
Alors, absolument, puisque la mission affirmée de l'État chinois aujourd'hui, surtout sous Xi Jinping, puisqu'il a beaucoup mis l'accent sur ce point, c'est la grande great rejuvenation of the Chinese nation. C'est c'est la mission affirmée. Bien sûr, rejuvenation, ça veut dire retour vers quelque chose qui existait par le passé et qui a été perdu. Et donc, ce siècle de domination que vous mentionnez si justement, et la fondation de ce narratif de retour vers une position centrale qui est le dû de la Chine, puisque dans ce narratif, la Chine était le centre de son propre monde, de l'Asie, et donc les autres pays venaient vers la Chine, et cette situation a été bouleversée par l'arrivée des puissances coloniales occidentales, de la France, l'Angleterre, etc. Et donc aujourd'hui, la Chine revendique un retour à cette situation naturelle où elle est le cœur de l'Asie. Donc bien sûr, ces périodes d'humiliation est centrale à l'identité de la Chine moderne. Et d'ailleurs, je précise que le World Warrior Diplomacy que vous mentionnez, elle est de manière quasiment entièrement tournée vers les Occidentaux et vers ces pays, ces grandes puissances occidentales, les États-Unis avant tout, que les Chinois perçoivent comme désireuses de maintenir la Chine sous pression, de maintenir la Chine à bas et de lui refuser cette ambition légitime de vouloir redevenir une grande puissance mondiale. Et donc, ce Wolf Warrior Diplomacy, cette diplomatie agressive, est, du point de vue chinois, simplement une contre-attaque contre de la pression occidentale qu'ils considèrent comme injuste et de long terme. Ces genres de tactiques sont beaucoup moins adaptées face aux pays d'Asie ou d'Afrique. Et d'ailleurs, je dois dire, à moins que, et c'est, bien sûr c'est une grande exception, quand la Chine perçoit que ces pays lui portent atteinte à son honneur ou à ses intérêts de façon très visible, dans ce cas-là, les diplomates chinois peuvent être aussi très assertif envers ces pays asiatiques et d'autres pays et d'autres continents non occidentaux également.
Lorsque vous mentionnez justement la source un peu et la période de cette grande humiliation que la Chine a connue de façon historique, moi-même ayant vécu en Chine à plusieurs reprises, lorsqu'on parlait avec nos professeurs d'université, c'était un peu la même expérience, la même histoire qu'ils vous racontaient. Certains peuvent se dire, écoutez, la Chine vient et trouve sa motivation de puissance aujourd'hui d'un passé d'humiliation et d'un passé de frustration. Et donc, les psychologues pourraient croire qu'il y a une sorte de volonté de vengeance et d'agressivité de la Chine. Est-ce qu'aujourd'hui, avec ce passé-là, les pays d'Asie, je vais inclure un peu les autres pays de l'hémisphère sud, les pays d'Amérique latine et les pays d'Afrique, doivent-ils ou ont-ils des raisons d'avoir peur de l'émergence de la Chine comme un acteur premier au niveau mondial ?
Alors, de ce point-là, l'Asie est effectivement différente, tout simplement parce que plusieurs pays d'Asie du Sud-Est ont des disputes territoriales avec la Chine, ou des disputes maritimes en mer de Chine du Sud en particulier. Donc, ça concerne surtout le Vietnam, les Philippines, mais également la Malaisie et l'Indonésie et le Japon, et même une petite dispute avec la Corée du Sud, qui soit beaucoup moins importante. Et donc, pour ces pays, alors même si la plupart de ces pays eux-mêmes étaient victime de la même colonisation que la Chine a connue. La Chine a été entre guillemets semi-colonisée par les puissances impériales occidentales, tandis que le Vietnam et les Philippines, l'Indonésie, tous ces pays étaient colonisés. Et du coup, on pourrait penser qu'il y aurait une sorte de solidarité entre ces pays qui permettrait de résoudre de façon amicale les différents territoriaux. Mais ce n'est absolument pas le cas. Et envers ces pays, la Chine peut de nouveau se montrer très hautaine et sûre de sa supériorité et dure et en gros imposer à ces pays qu'ils acceptent les proclamations chinoises quant à le droit territoriaux sur les territoires qui sont en dispute. Et là, on voit très peu il y a une très faible capacité de la Chine à se mettre dans les bottes des autres pays et à comprendre comment ces autres pays perçoivent la Chine et ses disputes. Donc ça c'est un élément à noter. Mais de manière plus générale, je dois dire que ce sentiment de justification vers retour, voilà, revanche et de retour à une position qui a été volée à la Chine entre guillemets par les pays occidentaux, ce sentiment-là concerne surtout les pays occidentaux. Je pense que si vous êtes en Amérique du Sud ou en Afrique, ce genre de sentiment n'est pas un gros problème pour vous, puisque de nouveau, il est vraiment tourné vers l'Occident. Et c'est là, je pense, la grande différence entre les pays limitrophes de la Chine et les autres pays de l'hémisphère sud, c'est que les points de conflit notamment territoriaux sont bien sûr pas d'actualité dans ces autres dans les relations avec ces pays qui sont beaucoup plus loin de la Chine. Et ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas avoir de disputes où tout d'un coup la Chine se montre également hautaine ou impérieuse d'une certaine façon, mais ces points de dispute sont quand même moins importants. Et de nouveau, il y a quand même une grande différence entre l'attitude de la Chine envers les pays de l'hémisphère sud, qu'ils considèrent quand même des sortes d'alliés naturels contre les Occidentaux, et la relation de la Chine avec les Occidentaux.
Les aspects que vous avez abordés sont assez intéressants parce que ça fait un peu écho aussi à l'attitude de la Chine au niveau africain. Au début, lorsque vous parliez de la perception que qu'on a de la Chine au niveau de l'Asie, il y avait deux niveaux. Le niveau gouvernemental et puis le niveau de la perception que les populations asiatiques ont de la diaspora chinoise, des affaires économiques, de comment les entreprises chinoises s'insèrent dans l'économie nationale. Cette crainte est aussi la même que l'on perçoit au niveau des pays africains. Lorsque l'on parle avec les citoyens africains dans différents pays, on voit cette même crainte-là concernant les entreprises chinoises, la façon dont ils ont de traiter les employés locaux, les connexions qu'ils ont avec les acteurs du pouvoir, etc. Il y a une sorte de dichotomie, justement, entre la perception gouvernementale des gouvernements africains vis-à-vis de la Chine et de la perception des citoyens vis-à-vis de la Chine. C'est vrai qu'au niveau des citoyens, je vais vraiment nuancer, il y a aussi une grande perception positive dans le sens où ils reconnaissent aussi l'impact positif que la Chine a eu sur leur économie. Si je fais référence à différents sondages qui ont été menés sur le continent africain concernant la perception qu'ils ont de la Chine, des États-Unis, de la France, de la Grande-Bretagne, etc. De façon assez plus ou moins large, dans plusieurs pays africains, on percevait la Chine de façon positive. Ceci étant dit, lorsqu'on met ces éléments en contexte et que vous dites que les pays africains qui sont assez loin de la Chine n'ont pas à avoir peur de la Chine, mais qu'en même temps qu'on a une Chine qui a cette perception assez affirmante de son autorité, de sa valeur et de ce qu'elle reçoit, ma question c'est de savoir, lorsque la Chine doit gérer des conflits commerciaux, par exemple, de ses entreprises dans des pays du Sud avec les gouvernements du Sud, notamment des pays africains, est-ce qu'on doit s'y attendre à une perception beaucoup plus amicale ou bien c'est beaucoup plus une approche beaucoup plus agressive en se disant, écoutez, je suis l'acteur, mes entreprises sont des entreprises fortes, nous venons dans vos pays dans des contextes difficiles et nous venons avec une posture assez dominante pour affirmer notre volonté.
Alors ça, c'est une question très intéressante, bien entendu, et je pense la façon la plus, une façon qui pour moi fait sens de penser à cette question, c'est de voir la Chine comme toutes les autres grandes puissances modernes, elle s'étend. Elle s'étend, bien sûr, pas territorialement, hors des limites de ses ambitions territoriales qui incluent la Chine du Sud, Taïwan, etc. Mais elle s'étend également de façon économique, parce que sa population, ce qui est si grande, part à l'étranger pour en cherche d'opportunités, parce que ses entreprises cherchent des nouveaux marchés, etc. De nouveau, c'est la logique des grandes puissances capitalistes modernes. Je veux dire, c'est la même chose pour les États-Unis ou les puissances européennes. Et la question est donc ensuite, vu que cette expansion va créer des conflits, comme que vous suggérez, les entreprises qui exploitent les travailleurs locaux, cette impression que l'argent chinois vient perturber le rythme économique normal dans les pays autour du monde. Alors, ce phénomène, bien sûr, est plus avancé en Asie qu'ailleurs, puisque l'Asie est plus proche, et l'Asie du Sud-Est en particulier, est la région qui a le plus subi cette expansion, de nouveau qui se fait naturellement, même hors dehors de la volonté du gouvernement chinois qui a dit à ses entreprises et à ses citoyens aller à l'étranger chercher des opportunités économiques et etc. Et bien sûr, ensuite, ce sont les citoyens chinois eux-mêmes, les entreprises chinoises elles-mêmes qui sont allés chercher ces opportunités. Mais donc, l'Asie du Sud-Est a beaucoup plus subi ce phénomène qu'ailleurs, mais bien sûr, tous les continents autour de la Terre en sont concernés, que ce soit l'Afrique, l'Amérique du Sud également. Et la Chine est de nouveau, jusqu'à cette année encore, le plus grand pays du monde, c'est normal que cette expansion soit encore plus importante que celle d'autres puissances. Alors la question ensuite, c'est est-ce que la Chine est capable de mettre en place des structures sociales, des sortes de règles de comportement ou d'interaction avec ses partenaires économiques qui permettent de gérer ces tensions, de les maintenir sous contrôle, de les résoudre d'une certaine façon sans créer de conflits majeurs dans la relation. Et alors là, je dirais que l'image, la perspective est assez mitigée. Parce que d'un côté, la Chine peut faire preuve de beaucoup de flexibilité dans les négociations avec les gouvernements quand ces négociations se passent derrière porte close, sans devenir trop publiques, sans créer de grands scandales, parce qu'une chose que la Chine déteste absolument, c'est d'être mis sous l'œil du public et être critiqué de façon publique. Ça, c'est bien sûr, c'est quelque chose que les Chinois détestent absolument, et c'est une raison de la rancune envers les États-Unis en particulier en ce moment. C'est parce que les États-Unis n'arrêtent pas de critiquer la Chine de façon très publique et très vocale. Et ça, c'est, de nouveau, c'est quelque chose que la Chine déteste. Tant que les pays africains qui font face à des conflits commerciaux, etc., maintiennent les choses sous chape, acceptent de négocier derrière porte close, etc., les bureaucrates chinois, les autorités chinoises peuvent être très flexibles et dans la façon de négocier. Cependant, il y a aussi ce sentiment, de nouveau, cette sorte de sentiment de supériorité et cette fierté qui peut, à tout moment, en mettre un obstacle à ce genre de négociation très flexible. Et du coup, dans ce cas-là, la Chine peut, et de nouveau, il y a beaucoup d'exemples de cela en Asie, passer tout d'un coup d'un système vers une attitude très inflexible et, de nouveau, un peu de colère, en guillemets, où il prête à menacer l'autre côté si elle ne répond pas à ses besoins. Parce que, bien sûr, la Chine, les acteurs économiques chinois et le gouvernement chinois sont bien sûr très déterminés à protéger leur intérêt économique. Et également, bien sûr, cette expansion économique se fait pas par bonté de cœur. Bien sûr, le narratif veut que la coopération économique entre la Chine et d'autres pays soit win-win, soit gagnante-gagnante, et que les autres pays en profitent également. Mais ça veut dire, bien sûr, que la Chine elle-même doit en profiter. Et quand ses intérêts économiques sont mis sous menace, la Chine les défend avec beaucoup de détermination. Mais de nouveau, elle peut le faire de façon flexible. Cependant, quand un problème devient quelque chose de public, quand les sentiments populaires deviennent trop féroces par rapport à la Chine, par exemple, là, de nouveau, les diplomates chinois peuvent souvent changer d'attitude et devenir assez impérieux et se montrer beaucoup moins flexibles et demander que l'autre côté reconnaisse que la Chine est dans le juste, reconnaisse que la Chine est un partenaire de valeur, et s'ils ne font pas, des menaces et même des sanctions économiques sont tout à fait possibles. Et c'est donc c'est pour ça que je veux dire que c'est une image mitigée, parce que nous avons flexibilité d'un côté, mais également capacité à de grandes inflexibilité également.
La capacité à être très inflexible, ça me rappelle cette expression chinoise « duolien », comme pour ceux qui parlent chinois, ça veut dire « perdre la face ».
Oui, exactement.
Et dès lors que la dispute ou bien que la polémique devient publique, il est très difficile de pouvoir obtenir des concessions des acteurs chinois, parce qu'ils vont sur la base qu'il n'est pas question que nous perdions la face.
C'est exactement ça.
Et d'autant plus que maintenant, ils se perçoivent comme étant un acteur important. Non seulement qu'ils se perçoivent, c'est que factuellement, ils sont un acteur important et puissant. Et donc, pour eux, l'élément d'humiliation est un élément de fond. Ne pas perdre la face est un élément important. Dès lors que la polémique devient publique et qu'il y a une sorte de volonté d'humilier ou bien de ce qu'ils perçoivent être une humiliation du nom et de la puissance chinoise dans un pays, que ce soit en Asie ou en Afrique, les diplomates chinois tendent à être très, très, très obtus, inflexibles. Et je crois qu'on le voit déjà, moi personnellement, je l'ai vu, dans un pays comme la République démocratique du Congo, où il y a une dispute entre des entreprises chinoises et le gouvernement, où dès lors que le sujet est devenu public, on a vu de plus en plus une sorte de ton offensif de la diplomatie chinoise et de l'ambassade de Chine sur place pour réellement défendre les intérêts chinois dans ce pays-là. Et je crois que ça fait réellement écho à cette philosophie chinoise de dire, écoute, nous sommes devenus un pays puissant, nous avons connu un passé d'humiliation, il n'est plus question qu'un autre pays vienne marcher sur nous. Et là, je reviens à vous, Antoine, avec deux thématiques d'ailleurs que vous avez développées dans votre livre. La première thématique, c'est la hiérarchie. La deuxième thématique, c'est la moralité même, la moralité dans le système international. Je commence par la hiérarchie. Quelle est la perception chinoise, justement, de la hiérarchie au niveau international?
Alors, c'est une perception qui met beaucoup d'emphase sur la démonstration, l'aspect démonstratif de la hiérarchie, que, en gros, les structures qui servent de nos cadres, donc aux relations entre la Chine et les autres pays, doivent démontrer la supériorité de la Chine d'une certaine façon. C'est pour ça que, par exemple, FOCAC, Forum entre Afrique et Chine, ou le même type de forum avec l'Amérique du Sud, avec le Moyen-Orient, etc., sont tous des forums. Donc c'est la Chine plus un groupe d'autres pays. Donc l'aspect asymétrique de ces relations est très visible. C'est la même chose pour toutes les grandes initiatives chinoises comme la Belt and Road, la nouvelle route de la soie, comme la Global Security Initiative, Development Initiative, la nouvelle initiative globale du développement ou de la sécurité que Xi Jinping a récemment proposée, sont tous des initiatives chinoises auxquelles les autres pays sont invités à participer. Et donc, de nouveau, la supériorité ou la centralité de la Chine dans la vie internationale et à travers ces initiatives démontrées de façon régulière à travers les différents forums qui sont tenus sur sol chinois très fréquemment, et à travers tous les sommets bilatéraux exactement également, où d'autres dirigeants politiques viennent en Chine et viennent apporter louange aux initiatives de Xi Jinping et à la façon dont Xi Jinping est un leader généreux, etc., qui est prêt à contribuer au bien-être de l'humanité dans son ensemble. Ce genre de louange fait aussi partie de ce que la Chine attend des plus petits pays, entre guillemets. Donc ça, c'est l'aspect visuel et très concret de la vision chinoise de la hiérarchie. L'autre, c'est tout simplement le respect de codes de comportement qui sont non-dits, ce n'est écrit nulle part, mais des codes de comportement selon lesquels les autres pays reconnaissent quelles sont les lignes rouges de la Chine. Bien sûr, cela concerne en particulier les questions internes comme Taïwan, Hong Kong, le Tibet et Xinjiang, ce sont les quatre les plus importantes, mais de manière générale aussi la domination du parti communiste du système chinois, ou la légitimité du parti communiste comme dirigeant du pays. Et donc, envers ces questions, bien sûr, la Chine ne tolère aucune critique et aucune remise en question. Et ça fait partie également des demandes, des attentes de la Chine envers les plus petits pays. Et donc, c'est ce que j'appelle les normes de comportement non dites, c'est éviter de franchir ces lignes rouges. Et de manière plus générale, ça veut aussi dire, quand vous avez un différend avec la Chine, de nouveau le maintenir derrière les portes closes, éviter de heurter la face de la Chine, donc Mianzhe que vous avez justement évoqué précédemment. Donc ça fait aussi partie de ce qui est attendu des autres pays. Et à mon avis, c'est donc ça là où est la vision, la particularité de la vision chinoise de la hiérarchie. C'est de nouveau une vision très concrète et qui est basée autour de normes de comportement non dites qui sont imposées à d'autres pays. Enfin, de nouveau, pas imposées de façon explicite, mais l'attente que les autres pays respectent ces normes de comportement est très claire dans la façon dont la Chine conduit ses relations étrangères.
Vision de la hiérarchie chinoise au niveau international. Deux éléments, je dirais trois éléments, vraiment qui sont restés dans mon esprit: supériorité de la Chine, centralité, et puis respect du code des non-dits des lignes rouges de la Chine. Parlant du respect des lignes rouges de la Chine, je me rappelle l'année passée lorsque Nancy Pelosi a visité Taïwan, c'était le scandale au niveau mondial, au niveau de la Chine et puis pays dans l'hémisphère sud. Mais au niveau des pays africains, on a vu pas moins d'une quarantaine de chefs d'État et de gouvernement publier des communiqués condamnant la visite de Nancy Pelosi à Taïwan, réitérant leur adhésion et leur vision d'une Chine unique, de comment Taïwan est partie intégrante de la Chine, etc. Parlant de Xinjiang, il y a en 2020 et en 2021, les pays africains ont constamment toujours voté en faveur de la Chine et contre toutes les résolutions qui étaient proposées au niveau du Conseil des droits de l'homme ou bien aux Nations Unies pour essayer de condamner la Chine. Et on se rend compte qu'à ce niveau-là, les pays africains se mettent justement du bon côté de cette vision hiérarchique de la Chine au niveau mondial.
Oui, tout à fait. Ça fait partie des attentes que ce soutien au niveau public quand un incident a lieu qui touche justement à ces lignes rouges, à ces grandes priorités de la Chine. Elle attend de ses partenaires qu'ils offrent leur soutien de la sorte. Alors bien sûr, c'est jamais très clair à quel point il y a eu pression derrière en coulisses pour que les gouvernements agissent de la sorte. Ou bien sûr, ce que la Chine aimerait, c'est que les gouvernements soient les gouvernements africains africains et d'Asie Sud-Est et d'ailleurs, de leur propre plein gré, comprennent ce qui soit attendu d'eux et le fassent sans que un diplomate chinois ait besoin de faire quoi que ce soit. Je pense que nous ne sommes pas encore là et les diplomates chinois font bien sûr très attention à mobiliser l'opinion publique internationale, entre guillemets, et donc les gouvernements considérés comme amicaux pour obtenir ce soutien. Ça fait absolument partie de cette vision de la hiérarchie également. Donc vous avez tout à fait raison là-dessus.
Voilà. Ceci étant dit, je reviens maintenant sur les deux autres éléments de cette vision hiérarchique de la Chine, centralité et supériorité de la Chine à travers des mécanismes qu'elle met en place, notamment avec d'autres pays du monde, du système international.
Oui, oui, exactement. Comme Global Security, l'initiative globale du développement, etc. Ce qui est intéressant, c'est que le contenu de ces initiatives est assez vague et surtout, si on regarde les documents qui ont été produits par les organes du parti pour expliquer ces nouvelles initiatives, ils sont en grande partie une réitération du discours diplomatique de la Chine qu'elle tenait depuis de très longues années, même des décennies dans certains cas. Certains de ces principes, surtout les plus fondamentaux, reviennent jusqu'aux les cinq principes de coexistence pacifique, les Five Principles of Peaceful Coexistence, qui ont été proclamés en 1954 dans une déclaration commune avec l'Inde. Encore aujourd'hui, en gros, nous voyons dans ces nouvelles initiatives une évolution, et même pas vraiment une grande évolution, mais genre une itération sur ces principes. Donc, le contenu de ces initiatives est assez vague et n'est pas très et reste vraiment. C'est quelque chose. On verra quand on y sera, plus ou moins. C'est donc ça se construit en cours de route. Par contre, là où les diplomates chinois ont été très actifs, c'est obtenir le soutien pour ces initiatives. Donc, il me semble, pour moi, que obtenir le soutien d'autres et créer, par exemple, ce groupe des amis de l'initiative du développement que la Chine a créé aux Nations Unies, ça a été une plus grande priorité que mettre plus de détails concrets sur ces initiatives elles-mêmes. Donc, obtenir le soutien d'autres pays est au centre de cette façon que la Chine de proposer de nouvelles initiatives de façon très régulière et d'inviter d'autres pays à y participer.
Justement, vous évoquez un aspect sur lequel je voulais revenir, quand vous dites obtenir le soutien et le ralliement de ces pays derrière ces initiatives-là, qui pour elle, la Chine est très importante. D'ailleurs, c'est ce soutien, ce ralliement des pays du Sud, notamment des pays d'Afrique, qui permet aujourd'hui à la Chine d'avoir une voix et de pouvoir exister au niveau international. La Chine compte aujourd'hui beaucoup sur le soutien politique et le ralliement des acteurs des pays du Sud et des pays d'Afrique dans son émergence comme puissance mondiale, avec la mise en place notamment des mécanismes comme le BRICS, où nous voyons des pays comme l'Afrique du Sud. Mais en même temps, dans l'établissement de ces mécanismes-là, vous aviez mentionné l'élément de supériorité et centralité de la Chine dans ces initiatives-là. Et là, moi, ça me pose un problème, mais aussi une question de savoir quelle est vraiment la marge de manœuvre des petits pays, je dirais, un petit pays comme l'Afrique du Sud dans un mécanisme comme le BRICS. C'est vrai que l'Afrique du Sud au niveau continental, c'est une véritable puissance économique. Elle est membre du G20 au niveau mondial, mais comparé à la Chine, ce n'est pas un grand pays. Maintenant, dans ce type de relation d'asymétrie où la Chine se considère être centrale et supérieure, quelle est réellement la marge de manœuvre des pays moins puissants pour pouvoir obtenir des concessions importantes de la part de la Chine?
Alors, vous avez tout à fait raison que cet espace est d'une certaine façon limité, puisque il est clair dans la plupart de ces initiatives que c'est la Chine qui est le conducteur de l'initiative, et donc le droit d'initiative, etc., vient de Pékin. D'ailleurs, c'est reflété dans la structure de beaucoup de ces forums et ces autres mécanismes, puisqu'ils sont contrôlés par le ministère des Affaires étrangères chinois, ce sont les diplomates chinois qui sont les plus actifs à proposer de nouvelles initiatives, etc. Donc, l'autonomie des autres pays qui sont membres, ils doivent l'exercer de façon très active et essayer de trouver dans ce cadre qui est donc quand même de nouveau centré sur Pékin, la façon de pousser leurs propres priorités. Et c'est tout à fait possible, parce que ça veut pas dire que les diplomates chinois imposent des priorités sans consultation. Ils consultent leurs partenaires de façon très fréquente. C'est plutôt que cette consultation, c'est d'abord il est clair qui a le droit d'initiative et qui est le followers, le suivant d'une certaine façon, dans ces échanges. Ce ne sont pas des échanges égaux, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'échange ou qu'il n'y a pas de consultation ou de négociation. Donc, en gros, pour les petits, le challenge, le défi, c'est de trouver leur marge de manœuvre dans ces structures asymétriques. Alors, une chose qui est intéressante, c'est que vu que les Chinois, comme je l'ai dit tout à l'heure, sont très sensibles aux questions, enfin, vous l'avez dit même, aux questions de face, d'honneur, etc., et offrir son support, son soutien sur les questions internationales, etc., c'est une très bonne façon ensuite d'obtenir des concessions pour ailleurs. Et d'ailleurs, les Chinois sont assez clairs sur ces quiproquos. Par exemple, soutenir la Chine dans les Nations Unies, c'est une façon pour les pays d'Afrique et d'ailleurs d'obtenir des meilleurs prêts, des prêts ou des investissements dans leurs infrastructures, par exemple. Et donc, ce genre de quiproquo est assez à l'avantage des pays d'Afrique, je pense, parce que offrir son soutien verbal ou diplomatique, politique, ce n'est pas une grande... Enfin, surtout, ce sont des questions qui souvent n'ont pas vraiment de lien direct avec l'intérêt national de ces pays. Ce n'est pas quelque chose qui est très extrêmement difficile à faire. Et si, en échange, on peut obtenir des meilleures conditions économiques ou des capitaux qui ne sont pas accessibles avec d'autres grandes puissances, ben, je pense que c'est pas un bel accord, même si c'est un accord non dit. Et donc là, je pense qu'il y a bien sûr de l'espace pour les autres pays pour exploiter cette obsession chinoise avec les questions de statut et de face et d'honneur pour obtenir des concessions en échange.
Donc, si on comprend bien, on est du bon côté de la Chine du moment où en tant que pays, petit pays, on supporte et qu'on se met et qu'on s'aligne réellement derrière la politique chinoise. J'entends déjà d'ici les critiques de mes auditeurs en Afrique qui disent, mais finalement, en quoi est-elle différente des États-Unis qui ont aussi la même posture de se dire, écoutez, nous sommes du bon côté des États-Unis uniquement si on se plie à l'approche américaine et aux intérêts américains.
Alors ça, c'est une critique tout à fait légitime et je dois souligner que bien sûr les diplomates occidentaux peuvent être tout aussi impérieux que les diplomates chinois, surtout dans le sens où les diplomates occidentaux, il me semble, en tout cas dans les conversations que j'ai pu avoir avec des diplomates des pays d'Asie du Sud-Est et d'ailleurs, ils sont sûrs qu'ils ont la formule idéale pour régler les problèmes domestiques de quels que soient ces problèmes, corruption, etc. Et ils attendent que les autres pays reconnaissent que le modèle occidental est meilleur et qu'ils doivent l'adopter. Et donc, cette attitude peut être tout aussi impérieuse. Donc ça, absolument aucun doute là-dessous. Et une autre différence, c'est peut-être avec la Chine, le quiproquo entre soutien diplomatique et bénéfique économique est assez ouvert. Enfin, c'est assez clair que ce qui est attendu d'autres pays. Tandis que avec les États-Unis, ça peut être, ok, bien sûr, enfin, c'est plutôt, vu que les États-Unis se considèrent en position de supérieure de façon point de vue moral, par exemple quant à l'Ukraine ou ailleurs, il est naturel d'un point de vue américain que les autres pays vont soutenir Washington dans leur politique envers la Russie ou envers d'autres questions internationales. Et ensuite, il n'est pas sûr que après ce soutien va arriver des concessions économiques ou des investissements qui soient bénéfiques pour l'économie locale des pays qui sont concernés. Donc là, je suis tout à fait d'accord que, en guillemets, on pourrait dire que la Chine, c'est peut-être plus facile de négocier avec la Chine parce que ce qui est attendu et ce qui peut être obtenu en retour est plus clair. Tandis qu'avec l'Europe, c'est plutôt les structures domestiques et les réformes proposées sont considérées acceptables par Washington, par Paris, par Londres. Ensuite, il se peut que le pays en question soit invité dans des structures, dans des initiatives qui pourraient débouter sur des projets importants de développement intérieur. Et puis, dont les termes peuvent être supérieurs ou plus avantageux que ceux offerts par la Chine. Mais disons, il y a beaucoup plus d'étapes à suivre et les résultats est moins certain, je pense. Même si on peut dire également que la Chine, d'ailleurs, a parfois des problèmes. Elle promet beaucoup et ce qui est ensuite réalisé après coup n'est pas pas absolument certain d'être ce qui a été promis. C'est d'ailleurs une raison pour laquelle les pays comme les Philippines ou le Vietnam sont aussi un peu dubitatifs de toutes les grandes initiatives chinoises, parce qu'ils ont vu assez fréquemment que ce qui a été promis et ce qui a ensuite été concrétisé sur le terrain est différent. C'est d'ailleurs pour ça que ces pays-là, leur partenaire privilégié, c'est le Japon ou la Corée du Sud, qui fonctionnent de façon assez similaire avec la Chine, c'est-à-dire qu'ils ne conservent pas les questions de droits humains, de gouvernance interne les plus importantes, mais sont plus diligents à réaliser les projets qu'ils ont promis.
Dans ce que vous avez abordé, il y a un élément qui est ressorti qui justement nous amène dans le deuxième point dans le deuxième point que vous aviez abordé dans votre livre, c'est la moralité. La moralité de la diplomatie chinoise, entre guillemets, si je dois parler de moralité. Mais il y a, dans le discours diplomatique chinois, il y a une sorte d'éléments moraux de dire que nous avons plus de légitimité morale à être l'acteur premier, nous avons plus de légitimité morale internationale à pouvoir reformer le système international. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire justement sur les aspects de la moralité de la diplomatie et de la politique étrangère chinoise?
Alors, je pense d'abord, historiquement, il faut dire que la moralité a toujours été au cœur du discours de la Chine envers le monde extérieur. C'est en remontant jusqu'à la période impériale où la supériorité de l'empereur, enfin de l'empereur chinois, venait de son pouvoir moral, de son exemple moral. C'était l'être le plus vertueux sur la planète, ou en tout cas, ces bureaucrates confucéens étaient les êtres les plus vertueux sur la planète. Il gouvernait de façon vertueuse, et c'est pour ça que d'autres étaient censés venir vers lui avec admiration et essayer d'obtenir, et étaient attirés envers ce gouvernement vertueux. Mais le grand changement qui a eu lieu pendant le siècle d'humiliation, c'est que cette vertu qui était censée être absolue, donc le gouvernement chinois, la cour impériale était la plus vertueuse, est devenue relative. C'est-à-dire que la Chine a commencé à se définir comme plus vertueuse que les puissances occidentales, bien sûr, au siècle dernier, au 19e siècle et au début du 20e siècle, étaient des puissances impériales qui avaient colonisé la plupart du monde et qui ont exploité beaucoup d'autres pays. Donc, bien sûr, ce n'est pas étonnant que la Chine, qui était soumise à ce type d'exploitation, considère ces puissances occidentales comme hypocrites, comme impérieuses et dominatrices de façon très brutale, et considère que elle, c'était son devoir de proposer un nouveau type de leadership international qui soit beaucoup plus bénévole et de nouveau vertueux. Et donc ce narratif que les puissances occidentales dominent par la force des armes, par la coercion économique et militaire, et la Chine est différente et propose quelque chose de mieux, ce narratif qui donc était posé pendant le siècle d'humiliation a ensuite continué pendant la période de la République populaire jusqu'à maintenant. Et bien sûr, il a eu différentes versions de ce narratif, mais il est toujours en équivalent aujourd'hui, où le narratif de la Chine, c'est que les États-Unis, qui sont la puissance dominante, sont hégémoniques, et le terme hégémonique en Chine, dans la Chine moderne, a une connotation très négative. Donc sont hégémoniques, utilisent la force de façon très facile, les sanctions, la limite envers les échanges économiques avec les États-Unis, sont égoïstes, etc. Et la Chine propose un nouveau type de relation internationale. C'est une des formules qu'utilisait en tout cas beaucoup Xi Jinping. Et donc ce nouveau type de relation internationale est plus vertueux et moins exploitatif. Et c'est pour ça, puisque la Chine propose ce nouveau type de relation internationale qui est basé sur la coopération et sur le gagnant-gagnant, sur les échanges économiques mutuellement bénéficiels, cela justifie la prétention chinoise à offrir, à être, de nous venir la prochaine puissance dominante en Asie, en tout cas, et de plus en plus autour du monde.
Ce nouveau modèle de moralité au niveau international prôné par Pékin se distingue aussi par un élément que nous voyons et qui se manifeste d'ailleurs dans ces relations avec le reste du monde, c'est celle de la relativité de certaines valeurs, de la relativité des questions comme les droits de l'homme. Il n'y a pas d'absolu, il y a une certaine relativité sur les questions de gouvernance, il n'y a pas d'unique modèle de démocratie qui peut être mise en place dans un pays quelconque. Il n'y a pas un set de valeurs, de droits de l'homme universel qui doit s'appliquer à tous les pays. Chaque pays a son histoire, a sa civilisation, a son évolution, qui fait qu'en réalité, nous, en tant que pays extérieur, nous n'avons pas le droit de pouvoir nous ingérer dans les questions de gouvernance, dans les questions intérieures de gouvernance des pays.
Oui, alors la morale est une des aspects que la Chine revendique de sa vision de la supériorité morale, c'est qu'elle ne dit pas aux autres comment gérer leurs propres affaires. Et donc c'est là où on voit la différence entre la vision chinoise de la moralité et la vision occidentale. La vision occidentale est beaucoup plus basée sur la gouvernance interne, sur de nouveau le respect pour les droits humains, pour la démocratie, pour le libre marché économique, etc. C'est ça qui fait de vous un bon, en guillemets, gouvernement. Tandis que la Chine rejette ce genre de narratif et insiste, comme vous l'avez dit, sur qu'il n'y a pas de valeur universelle, que les droits humains et la démocratie sont des aspirations universelles, mais qu'il n'y a pas de version universelle des droits humains, surtout pas la version occidentale, et que imposer sa propre vision de la démocratie est de nouveau un signe de turpitude morale plutôt que de supériorité. Ça, c'est le narratif que propose la Chine. Et bien sûr, cela a une certaine résonance autour du monde. Donc, ce que dit la Chine, c'est qu'effectivement, puisque chaque pays peut à suivre son propre chemin, la Chine propose un mode de relations internationales qui permet à tous les pays de suivre leur propre chemin. C'est cela leur prétention à une moralité supérieure.
C'est un discours qui fait écho dans plusieurs pays sur le continent africain, parce que depuis quelques années, il y a ce discours qui monte au sein de l'élite africaine d'un modèle politique authentique africain, d'un modèle économique authentique africain, où on dénonce justement ce qu'on appelle les méfaits, les conséquences de la démocratie libérale dans les sociétés africaines traditionnelles, avec un tissu social assez complexe qui a conduit a conduit à des instabilités politiques, à des guerres civiles, etc. Et donc, ce discours-là, qui veut qu'il y ait un modèle politique propre à l'Afrique, est un discours qui rencontre justement cette moralité que prône Pékin. Et je crois d'ailleurs que c'est la raison pour laquelle plusieurs chefs d'État africains se sentent très confortables à pouvoir faire affaire avec la Chine, parce que au-delà du soutien économique que la Chine apporte, mais c'est aussi le fait que la Chine ne questionne pas le modèle, le mode de gouvernance que ces pays exercent dans leur société. Et je crois aussi que c'est là la différence qui fera que le discours chinois gagnera davantage de terrain sur le continent africain, comparé au discours occidental qui, jusqu'aujourd'hui, a toujours cet élément central de moralité, d'universalité des valeurs, et qui doivent être les mêmes partout, quelle que soit la situation, quelle que soit la civilisation et quelle que soit l'évolution historique d'un pays. Et je crois que c'est là aussi que Pékin joue très bien sa carte à pouvoir se distinguer en se disant, écoute, moi, je suis en dehors de cette vision des choses. Je vous donne, vous avez la latitude de diriger vos pays comme vous voulez. Antoine, dans la préparation de cette émission, lorsque nous échangeions, nous avions évoqué la notion de l'hégémonie chinoise. Que lorsque je suis vos explications, on voit qu'il y a une sorte de une vision de la Chine qui se dit, écoute, j'ai une sorte de légitimité à devenir le nouvel acteur premier, la nouvelle puissance mondiale, parce que moi, mes vertus, moi, ma valeur sont bien meilleures que celles des autres. Et que historiquement, on le voit aussi comment l'empereur en interne était celui qui était le bienveillant, qui veillait sur les autres et qui justifiait un peu sa légitimité. Dans cette perspective des choses, comment la Chine va-t-elle gérer l'émergence d'un nouvel acteur qui pourrait être un acteur rival à elle? Aura-t-elle l'attitude que les Occidentaux ont vis-à-vis d'elle, ou aura-t-elle l'attitude qu'elle veut que les Occidentaux aient vis-à-vis d'elle aujourd'hui, de se dire, écoute, nous sommes un monde multipolaire et nous devons pouvoir coexister, même s'il y a plusieurs acteurs puissants. Et ici, j'ai en esprit un pays particulier, l'Inde, qui est en même temps avec la Chine dans le BRICS, mais en même temps est rival à la Chine au niveau de l'Asie. Comment la Chine peut-elle gérer l'émergence d'un pays et la montée d'un pays comme l'Inde ?
C'est bien sûr de nouveau une très bonne question qui sera peut-être décisive dans les décennies à venir. Et je dirais pour l'instant, de nouveau, j'ai une image assez mitigée parce que d'un côté, en théorie, le système hiérarchique chinois que j'ai décrit n'est pas exclusif. On peut tout à fait penser à plusieurs systèmes de relations centrés sur des grandes puissances différentes qui ne font pas vraiment obstacle l'un à l'autre et qui peuvent posés l'une sur l'autre. C'est tout à fait, en théorie, c'est tout à fait possible puisque la Chine n'impose pas de tests sur les dimensions internes. Et tant que ses intérêts sont protégés, on peut en théorie imaginer qu'on y a des structures centrées sur différentes grandes puissances qui se recoupent sans heurte. Il y a cependant deux problèmes à cela, c'est que Cela implique qu'il n'y ait pas de conflits fondamentaux entre les intérêts chinois et les intérêts de cette grande puissance sur des questions communes, comme par exemple nous avons aujourd'hui entre la Chine et les États-Unis autour de Taïwan. Ça, parce que là, dans ce cas-là, il y a bien sûr une sorte de test de loyauté que la Chine, dont la Chine attend que les pays choisissent clairement un côté plutôt que l'autre. Et donc, même si, admettons, l'Inde devient dominante et devient un des acteurs les plus importants en Afrique et ailleurs, il apparaît entre la Chine et l'Inde ce type de question où c'est vraiment où on est bien avec l'un ou bien avec l'autre, la Chine va attendre que les pays donnent priorité à leur lien avec la Chine plutôt que l'Inde. Et l'autre facteur qui me semble douteux quant à la capacité de la Chine d'accepter une autre grande puissance non occidentale, c'est l'état actuel des relations entre la Chine et l'Inde, puisque la Chine a poussé dans l'Himalaya et a donc en avançant ses troupes sur la frontière a provoqué, bien sûr, il y a des torts des deux côtés, je ne dis pas que la Chine est seule responsable, mais a provoqué donc des clashs avec l'Inde dans les vallées d'Himalaya. Et dans cette dispute territoriale entre la Chine et l'Inde, la Chine a été de nouveau très inflexible et son attitude est de nouveau, elle se sent supérieure à l'Inde, c'est absolument certain, en ce moment parce que l'Inde est considérée plus pauvre, plus chaotique, etc. Et donc, le message chinois, c'est que l'Inde doit maintenant accepter que la Chine a renforcé ses positions dans les territoires disputés, et l'Inde doit accepter cela parce que la Chine est plus grande, plus puissante, plus économiquement forte, etc. Et doit passer à autre chose. Et accepter de continuer de coopérer avec la Chine sur d'autres sujets comme les grandes questions de gouvernance internationale, le BRICS, etc. Et bien sûr, c'est une attitude que l'Inde refuse d'accepter, puisque l'Inde a tout autant une idée forte de sa propre puissance, de son statut de grande puissance destinée à devenir l'une des plus grandes puissances de ce monde, de nouveau parce que c'est le seul pays qui peut rivaliser avec la Chine en termes de taille et de population. Et donc, vu que l'Inde refuse d'accepter cette demande chinoise, si la Chine était vraiment sincère dans sa désir de trouver un modus vivendi acceptable avec d'autres grandes puissances non occidentales, l'Inde est le cas test, et la Chine devrait être capable de trouver une façon de faire quelques concessions à l'Inde et de retrouver une forme d'équilibre dans leurs relations. Et elle a été incapable de le faire, et cela a poussé l'Inde bien sûr à se rapprocher des États-Unis, du Japon, de l'Australie et d'autres, et du coup de devenir plus hostile envers la Chine, et en tout cas de façon beaucoup plus suspicieuse envers les intentions chinoises. Donc c'est une grande erreur stratégique du côté de Pékin qui s'attire l'hostilité de la prochaine grande puissance montante. Et de nouveau, à mon avis, que beaucoup, une des raisons primaires de cette erreur stratégique, c'est de nouveau ce sentiment de supériorité et cette attitude envers l'Inde, qui, l'Inde étant inférieure, doit accepter les règles de Pékin envers la dispute territoriale et d'autres sujets. Donc, cela ne me semble pas très prometteur quant à la capacité de la Chine à l'avenir d'accepter d'autres rivaux. Mais de nouveau, en théorie, le système chinois peut coexister de la sorte avec d'autres grandes puissances si elles ne sont pas occidentales, et donc ces puissances impériales qui ont jadis humilié la Chine, et donc il n'y a pas ce sentiment de revanche.
Nous arrivons à la fin de notre podcast. Théoriquement, le système que propose la Chine est un système qui peut être multipolaire tant qu'il n'y a pas de conflit avec les intérêts primaires et centraux de la Chine. C'est ce qu'on devrait retenir un peu de la vision de la perception chinoise du système international. Antoine Roth, avec votre expérience de ce que vous avez vu de comment la Chine se comporte en Asie, s'il y avait une leçon que les pays africains devraient retenir de l'interaction de la Chine avec ses voisins d'Asie, quelle leçon ces pays pourraient-ils retenir pour pouvoir bien interagir avec Pékin?
Alors, j'irais d'abord de comprendre à quel point les questions, c'est de comprendre à quel point les questions de statut sont importantes pour Pékin et de comprendre que puisque il y a beaucoup moins de points de tension entre l'Afrique et la Chine et les pays d'Asie et la Chine, que cela est plutôt prometteur quant à l'avenir de leurs relations, mais d'un autre côté, que l'attitude de la Chine en Asie, quand elle peut se montrer tout d'un coup impérieuse, quand ses intérêts qu'elle considère centraux ou essentiels sont mis en cause, ben cette attitude impérieuse qui peut amener des tactiques de coercion économiques et même physiques qui peuvent être assez blatantes, enfin assez évidentes, et ben ce risque est là et tous les pays du monde devraient être conscients que lier des relations étroites avec la Chine, ça veut dire aussi s'ouvrir à ce genre de risques. Donc ces risques en ce moment ne sont pas très très importants et peuvent être gérés, mais ils sont là et peuvent exploser plus ou moins. C'est une sorte de bombe à retardement qui peut exploser à tout moment si ces pays ne sont pas attention à l'état de relations avec la Chine et ne comprennent pas ce que le Pékin est capable de faire quand il considère ces questions de statut et ces questions d'intérêts centraux sont mis en danger.
Merci beaucoup, Anton Roth. À nos auditeurs sur le continent africain, aux dirigeants, aux décideurs africains qui nous écoutent très souvent, vous connaissez ma position sur la question. Les relations internationales sont intrinsèquement des relations antagonistes. Les pays vont interagir entre eux en fonction de leurs intérêts et qu'il est important aujourd'hui que l'Afrique prenne conscience de sa valeur pour que ce soit pour la Chine, que ce soit pour les pays occidentaux et qu'elle se donne réellement les moyens d'exister comme un acteur politique à part entière. Comme vous avez dû l'entendre durant ce podcast, Pékin aura toujours une vision hiérarchique et hégémonique des relations internationales dans laquelle, évidemment, dans cette vision, elle est cet acteur bienveillant. Mais elle restera bienveillante tant que vous n'avez pas de conflit sur ses intérêts centraux. Mais en même temps, il ne faudra pas perdre de vue que les relations entre pays étant des relations fondée et fonction des intérêts, il arrivera éventuellement qu'il y ait une possibilité qu'il y ait des conflictualités et que lorsque ces conflits vont émerger, il faudra que nous, pays africains, ayons les moyens justement de notre indépendance politique, économique et d'action au niveau international. Antoine Roth, je vous remercie pour votre participation. Si nos auditeurs veulent vous suivre sur les réseaux sociaux, sur LinkedIn, comment ils font pour rester en contact avec vous et suivre vos publications?
Alors, sur Twitter, je suis @AntoineRoth, avec une majuscule pour le Antoine et sur le Roth, donc R-O-T-H, non. Et je suis aussi sur LinkedIn, Antoine Roth, je crois que avec ma photo de profil, je suis assistant professeur à Tohoku University.
Merci beaucoup, Antoine. Je mettrai les liens LinkedIn et Twitter juste dans les show notes pour vous permettre de suivre les travaux d'Antoine Roth. Je vous rappelle, le livre qu'il a produit en anglais, c'est A Hierarchical Vision of Order, Understanding Chinese Foreign Policy in Asia. En français, c'est une vision hiérarchique de l'ordre, comprendre la politique étrangère chinoise en Asie. Antoine Roth, je vous remercie.
Merci de l'accueil.
La discussion continue en ligne. Rendez-vous sur facebook.com/AfriqueChine pour partager vos réflexions et réactions sur l'émission. Et sur Twitter, AfriqueChine, Afrique avec un K, pour participer à nos espaces de discussion. Vous pouvez aussi suivre Géraud sur Twitter, sur Christian Géraud, en un seul mot. Et n'oubliez pas de vous abonner à notre bulletin d'information bi-hebdomadaire en ligne sur l'actualité de la Chine en Afrique en allant sur www.projetafriquechine.com/s'abonner.